13 décembre 1983, théologie fondamentale sur les sacrements, Rimont.
Nous allons donc continuer à entrer dans ce mystère des sacrements. Le passage des gestes du Christ à la liturgie de l'Église, à la manière dont l'Église comprend le sacrement de l'Eucharistie. Donc ce sera, si vous voulez, tout l'enseignement que l'Église nous donne au point de vue du sacrement dans le Concile de Trente et la manière dont saint Thomas lui-même conçoit le sacrement de l'Eucharistie. Vous voyez ce que nous faisons. Le geste du Christ à la scène est fondement du mystère de l'Eucharistie tel que l'Église le vit. C'est le Christ fondateur des sacrements, comme grand prêtre, nouveau législateur, qui réalise son testament à la scène. Et ce testament, il le réalise, nous l'avions vu l'autre jour, et ici je prends spécialement le texte de saint Luc et le texte de saint Jean, parce qu'il faut toujours compléter les deux. Le texte de saint Jean montre la continuité et la rupture de l'ancienne Pâque et de la nouvelle Pâque par le lavement des pieds. C'est évident que le lavement des pieds n'est pas constitutif de l'institution. Il est une préparation. Il est de l'ordre de la disposition. Il faudra voir ce que l'Église en a fait. Évidemment, on peut dire le jeudi saint, c'est suffisant. Mais il faut quand même essayer de comprendre qu'il y a peut-être un lien un peu plus fort voulu par saint Jean. Alors, je regarde d'abord le noyau de ce que représente la scène telle que saint Luc nous la donne, telle que saint Paul nous la rapporte, telle que nous la voyons dans les Actes des Apôtres. Le noyau est assez simple, le noyau essentiel, c'est bien consécration du pain, avec le geste de Jésus qui prend le pain, le bénit, le rompt, le donne, en disant les paroles, ceci est mon corps. Et le geste du Christ avec la coupe. Ces deux gestes qui, tous les deux, font partie du même testament. Font partie de la même scène. Et il y a toujours bénédiction. Il y a toujours les paroles du Christ, et puis la communion. On retrouve les mêmes choses, différentes, puisqu'il rompit le pain, lorsqu'il s'agit du vin, il y a uniquement la bénédiction, la parole du Christ, et puis la communication, le don, la communion. Ce geste du Christ, qui est geste fait dans cet ultime repas après la Pâque ancienne, quelle est la signification de ce geste du Christ? Je crois que c'est la première question qu'on doit se poser au point de vue théologique. vue, tout geste a une signification. Et tout geste religieux, il s'agit d'un geste religieux. Et ce geste religieux est bien marqué par le fait même que c'est à la suite de la Pâque ancienne qui était un geste religieux. Et c'est sûrement pour cela que Jésus commence d'abord par la Pâque ancienne, à la fois par respect pour toutes les traditions religieuses de son peuple, par rapport au respect de l'institution de la Pâque. Il faut que cette institution, qui est au cœur de l'ancienne alliance, s'achève par l'exercice même, l'application même que Jésus en fait. Et en même temps, ça nous montre que ce geste est un geste religieux. Et l'intention du Christ dans l'institution de la scène, c'est bien de se donner en nourriture. Nous devons éclairer les intentions du Christ par le chapitre 6 dans Saint Jean. Puisque le chapitre 6 dans Saint Jean nous donne la théologie du geste. C'est ça qui est très beau dans l'évangile de Jean, que nous trouvons nulle part ailleurs. Sans cela, on peut dire que l'évangile de Jean, c'est l'évangile par excellence de l'Eucharistie. Parce que c'est vrai que nous trouvons les deux, à la fois l'enseignement prophétique sur le mystère du pain de vie, et puis la réalisation qui se fait au chapitre 13. Et dans cette réalisation, nous voyons le caractère solennel de cette réalisation, où Jésus montre qu'il a toute l'autorité du Père pour réaliser ce moment ultime, dernier, son testament, l'Épître aux Hébreux. Montre bien cela. Alors, avec le chapitre 6, nous avons l'intention qui est dite très nettement. Le Père donne le pain et le Fils qui continue les gestes du Père, le pain que le Fils donne, c'est sa chair en nourriture. Je crois ça très important pour saisir justement l'intention. Là, l'intention est explicite. Le geste lui-même, l'intention, elle existe. Jésus, au cours d'un repas, à la fin du repas religieux de la Pâque, prenant le pain et le donnant en nourriture, on peut dire que l'intention est très explicite. Il veut donner ce qui n'est plus du pain, le ceci est mon corps. Donc, il donne son corps à la manière dont on donne le pain. Voilà ce que nous pouvons dire. Il donne son corps à la manière dont on donne le pain. Puisque extérieurement, c'est du pain, et le geste porte sur le pain, en indiquant ceci. Donc, à la manière dont on donne le pain, il donne son corps. Et si je regarde le chapitre 6, il donne son corps pour être le nouveau pain, le véritable pain, et pour que par là se réalise une unité de vie entre ceux qui reçoivent ce pain et Jésus, une unité de vie analogue à celle du Fils bien-aimé avec le Père, c'est-à-dire analogue à celle que Jésus vit avec le Père. Donc, on voit bien là l'intention profonde du Christ de réaliser la communion la plus grande avec lui. Puisque c'est donné comme ce qui doit réaliser en nous une unité semblable, la même, c'est plus que semblable, la même unité que celle qui existe entre Jésus et le Père. C'est important parce qu'alors là nous comprenons la signification de ce geste d'un sens plénier. C'est vraiment le geste dernier, valeur de testament, le geste dernier qui implique un don total. Comme le Fils est totalement donné pour le Père et totalement donné au Père, Jésus, en se donnant à nous, veut que nous puissions nous-mêmes être entièrement donnés à lui. Et c'est pour ça qu'il dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Mais demeurez en lui et que lui demeure en nous pour que nous vivions de lui. Et c'est bien expliqué par la seconde affirmation, toujours au chapitre 6. Comme je vis par le Père, le dia que le Père Feuillet souligne par et pour, et je crois qu'il faut ajouter tout de suite les deux, il faut mettre les deux dans la traduction, de même celui qui se nourrit de la chair du Christ vit par le Christ et pour le Christ. Là, je crois que là, il faut insister beaucoup là-dessus, hein, au point de vue théologique. Parce que c'est là où on voit toute la force de la signification de ce geste. On voit là toute la force de ce geste. Le geste ultime de Jésus comme législateur. Ce n'est pas le geste ultime de toute sa vie. Alors nous verrons ensuite le rapport avec la croix. Il faut d'abord voir la signification, et c'est la première chose qu'on doit faire, la signification de ce geste, l'importance dans la vie du Christ de ce geste, dans ce dernier repas, à la suite du repas pascal, qui à la fois veut donc assumer tout ce que le repas pascal signifiait, en ajoutant quelque chose de tout à fait nouveau. Donc ce n'est pas simplement l'accomplissement du repas pascal, c'est en même temps quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a quelque chose d'infiniment plus grand, qui va beaucoup plus loin, et que Jésus seul peut réaliser, et que Jésus seul réalise, en se servant symboliquement du pain et du vin. Je crois que ça, nous pouvons tous le comprendre. Mais c'est très important de comprendre la signification du geste de Jésus, la grandeur de ce geste, de le faire à la suite de la Pâque, de le faire comme quelque chose de nouveau, et de le faire entièrement pour les apôtres. C'est pour eux, pour qu'ils comprennent combien Jésus leur est donné. Pour qu'ils comprennent jusqu'où va ce don. Alors, ce geste s'accompagne de ce don, de ce pain qui n'est plus le pain par la consécration, de la coupe qui n'est plus la coupe mais qui est le sang du Christ. Et c'est dit explicitement. Et la force de ces paroles s'explique grâce au chapitre 6 de Saint Jean. Parce que si vous ne regardez pas le chapitre 6 de Saint Jean comme lumière, voyez, contemplative, prophétique, vous ne comprenez pas avec suffisamment de force la force de ces paroles, ceci est mon corps. Ceci est le calice de la nouvelle alliance en mon sang. Quand Jésus avait dit précédemment que son corps est vraiment une nourriture et que son sang est vraiment un breuvage. Donc si on met les deux ensemble, là on comprend la force de ces paroles. Et je crois que c'est la première chose, vous voyez, au point de vue théologique, hein, quand on reprend le point de vue de ce que c'est que l'Eucharistie, nous devons prendre d'abord et en premier lieu ce point de vue de la signification du geste du Christ, dans ce don de lui-même. Nous devons ensuite comprendre comment ce geste est relié à la croix. Il est relié à la croix en ce sens que c'est un repas d'adieu. Alors vous voyez la différence, c'est que la Pâque ancienne est reliée au passé. Le geste du Christ dans ce testament d'amour est tout entier ordonné à ce qui va se passer. Et ce qui va se passer est exprimé par le sang versé. Ceci, la coupe de la nouvelle alliance dans mon sang. Et le double geste du corps et du sang, donné à la fois dans l'unité et dans la diversité, il n'y a pas qu'un seul geste. Il y a les deux gestes, il y a la double communion, exprime symboliquement, dans un symbolisme divin, ce qui doit se passer, ce qui doit se réaliser. Ce n'est pas dit explicitement, Jésus donne à travers un repas, il ne dit pas explicitement que c'est un sacrifice. Respecter le texte. Il ne dit pas explicitement que c'est un sacrifice, il dit simplement que c'est un repas qui, dans sa signification profonde, montre un don total du Christ à ses disciples pour réaliser la nouvelle alliance dans son corps et dans son sang. Alors, ce qu'il faut comprendre ensuite, je ne le dis pas maintenant, ce qu'il faudra comprendre au point de vue théologique, c'est que ce don implique nécessairement le sacrifice. Puisque c'est le don qui est expliqué, il faut donc, au point de vue théologique, montrer comment ce don ne peut pas s'expliquer sans le sacrifice. Pour que nous comprenions que l'explicitation que fait l'Église du sacrifice n'est pas extrinsèque à la lecture directe de ce qui nous est donné dans l'Écriture. La théologie est une bonne théologie dans la mesure où elle se ramène le plus possible au texte de l'Écriture. Et je crois que c'est cela que le Concile nous demande, c'est de maintenir toute la tradition, mais maintenir toute la tradition le plus proche possible du texte de l'Écriture. Et non pas ajouter au raisonnement scolastique, ce que la scolastique faisait. La scolastique ajoutait toujours des raisonnements. En prenant les conclusions, voilà ce qui a été prouvé, voilà ce qu'on pourrait ajouter. Nous devons faire un mouvement inverse, nous. Et je crois que c'est cela qui nous est demandé. C'est beaucoup plus un regard de théologien, vous voyez. C'est beaucoup plus pur comme regard de théologien. Donc, regardez d'abord le geste du Christ dans sa signification, voir ensuite comment ce repas, qui est un repas d'adieu, c'est un repas d'adieu, c'est dit explicitement. On ne prendra plus du vin avant. Donc c'est le dernier repas. C'est le dernier repas qui annonce le grand mystère de la croix. Alors quel lien pouvons-nous établir dans le geste du Christ avec le mystère de la croix? Il y a un lien simple, c'est que Jésus, entre ce repas et la croix, donne un enseignement, un grand enseignement sur l'Esprit Saint. Il y a la prière du Christ, si je prends dans Saint Jean. Mais je crois qu'on peut dire qu'il y a une continuité profonde dans l'intention du Christ. Puisque il se donne. Et en se donnant, la réalisation de ce don, qui se fait sous le mode de la nourriture, sous un mode symbolique de la nourriture, sous le mode symbolique du pain et du vin, le symbole, quand il s'agit d'un don d'amour, ne peut pas être le dernier moment. Puisque l'amour réclame la réalité. Et je crois que ça, c'est important pour nous. On ne peut pas s'arrêter à un symbole. Or, Jésus se donne sous un mode symbolique. Le pain et le vin, c'est un mode symbolique. Et c'est un don d'amour. Donc, ce qui montre bien que ce don n'est pas dernier. Il est réel, mais il est sous un mode symbolique. Je crois que c'est peut-être l'argument le plus fort pour montrer comment je ne peux pas m'arrêter à la scène et que la scène demande la réalisation dans notre monde d'aujourd'hui. Hein. Vous voyez, parce que je peux prendre d'autres raisonnements, je le prendrai ensuite. Mais dans le monde d'aujourd'hui, je crois que c'est le premier, ce raisonnement le plus fort. On est très lié à la connaissance symbolique dans le monde d'aujourd'hui. On revient à la connaissance symbolique et on comprend que la connaissance symbolique dans un langage d'amour, plus exactement dans une réalisation d'un don, n'est jamais ultime. C'est ce qui conduit vers, ou ce qui permet d'entrer vers. Donc ce langage symbolique de la scène demande la réalité, où Jésus sera livré. Or, il est livré, proprement dit, à la croix. Vous voyez, le mot livré met la continuité. Ce n'est pas du côté du pain, c'est du côté du vin. C'est du côté du sang. C'est le sang répandu. Il est livré pour nous. Et alors là, il y a la continuité. Le symbolisme du vin montre comment, symboliquement, il est livré pour nous, réclame la réalité, qui est le mystère de la croix. Je peux prendre aussi que ce symbole implique un testament et que ce testament réclame la mort de celui qui l'a fait pour avoir toute sa valeur. Et on ne peut comprendre la valeur du testament que lorsque nous regardons la mort de celui qui l'a fait. L'argument de saint Paul, l'argument de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est donc cela qui fait comprendre au point de vue du testament et du point de vue de la réalisation du testament. Il y a un lien. Je dois affirmer ce lien. Je ne peux pas dire plus. Je ne peux pas dire plus en regardant uniquement le texte. Je verrai comment, en l'analysant plus profondément, que ce lien fait qu'il y a une unité substantielle entre la scène et la croix. Et c'est ce que l'Église a découvert. Mais dans une première lecture, ce n'est pas dit explicitement. Simplement que ce geste est ultime, que c'est le dernier moment où Jésus vit cette alliance d'amour avec les apôtres, et vit cette alliance avec les apôtres, et ensuite, ce sera la croix. Et la croix, il n'y aura qu'un seul apôtre présent. Et c'est curieux qu'à la fois il y a la continuité et la discontinuité. Hein. Parce que enfin, les 12 devraient être là. Où les 11 devraient être là, et ne sont pas là. Ceci montre aussi la discontinuité. Il y a une discontinuité entre la scène et la croix, au point de vue visible, au point de vue langage. Ce n'est pas du tout le même langage. D'un côté, c'est un langage symbolique, de l'autre côté, c'est une réalité. Et le mystère de la croix est cette réalité où Jésus s'offre lui-même. Pour glorifier le Père et nous sauver. C'est le mystère de la rédemption. Et ceci est dit explicitement dans la prière sacerdotale du Christ, dans la grande prière du Fils bien-aimé. C'est l'offrande de sa vie pour glorifier le Père. Et nous sauver, nous donner la vie éternelle. Nous donner la vie éternelle, c'est nous sauver. Dans ce mystère du Christ, distinguons bien ce que nous pouvons faire au point de vue théologique. Le côté extérieur du sacrifice, le côté, si vous voulez, sociologique, et le côté profond. Le côté extérieur, c'est l'aspect sanglant. C'est ceux qui, de fait, réalisent le sacrifice sanglant. Ceux qui crucifient le Christ. ceux qui le crucifient dans l'exécution et ceux qui ont voulu cet holocauste de la croix. Les grands prêtres, en premier lieu. Puis, tout ce que saint Thomas étudie quand il étudie les causes de la rédemption, les causes de la croix. Là, il étudie très nettement, et c'est très beau comme analyse, il suffit de relire le texte de saint Jean, le texte de saint Luc, pour bien voir, en effet, qu'il y a quelqu'un qui mène le jeu pour que le Christ soit crucifié. Alors, au point de vue sociologique, c'est visible. Et on voit bien, ça aboutit à la croix, sacrifice sanglant. Holocauste sanglant. Massacre. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est un massacre. On massacre le Christ. On le rejette. Avec tout un procès qui est là pour faire croire que c'est juste, que c'est l'application de la loi. Puisque c'est ça qui va justifier en dernier lieu, aux yeux du peuple d'Israël, le mystère du crucifiez-le. C'est l'application de la loi, il s'est dit fils de Dieu, donc blasphémateur. Et par rapport à Pilate, il est roi contre, donc, Pilate ne peut pas le garder, puisqu'il serait contre César. Donc il y a les deux grands arguments. Et ceci commande, je dirais, tout l'aspect visible, sociologique du mystère de la croix. Mais l'aspect profond du mystère de la croix, qui n'est plus temporel, mais qui a une dimension éternelle, c'est l'offrande que Jésus fait lui-même de sa vie. Jésus hâte l'heure de sa mort pour bien nous faire comprendre la différence entre ce que les hommes ont fait et ce que lui, poussé par l'Esprit Saint, réalise. Et ça, saint Jean le souligne avec beaucoup de force, et c'est quand même très important pour nous de bien saisir cette hâte d'amour que Jésus réalise de lui-même en offrant sa vie terrestre, en offrant son âme. Il dépose son âme, c'est pour ça que le Père l'aime. Donc il y a un sacrifice intérieur qui est un sacrifice d'amour. Et par le fait même que c'est un sacrifice d'amour, ce sacrifice atteint directement la volonté du Père. Il a quelque chose d'éternel. C'est dans l'obéissance qu'il offre sa vie. C'est l'offrande de sa vie dans un acte d'obéissance qui rejoint la volonté du Père. Et en rejoignant la volonté du Père, il y a quelque chose d'éternel. Tout acte d'amour, tout acte d'obéissance à l'égard du Père est éternel. Il n'est pas uniquement temporel, parce qu'il est intérieur. Et là, étant intérieur et se faisant par amour, il a donc une valeur d'éternité. Et s'il a une valeur d'éternité, il est toujours en acte. Tandis que le sacrifice sanglant, ce que les hommes ont fait, est dans le temps et le lieu. Il ne peut pas se répéter. Ça ne se répète pas. C'est les circonstances de temps et de lieu, c'est le côté historique, sociologique, du sacrifice du Christ. Tandis que ce qui est positif, qui assume tout le reste, hein, faut bien le comprendre. Jésus, en s'offrant, assume toute la violence des bourreaux. Enfin, une opposition entre les deux, il l'assume. Donc tout est assumé dans ce sacrifice. Donc tout ce qui vient de l'extérieur comme violence est assumé par un amour intérieur. Et c'est cet amour intérieur qui est source première, qui a quelque chose d'éternel. Parce qu'en tant qu'il assume la violence, il est dans le temps. Fort interne et fort externe, hein, qui serait très important à bien saisir dans ce sacrifice. Il y a l'aspect invisible et l'aspect visible. Et le sacrifice est premièrement invisible. Ce qu'ils n'ont pas toujours compris, certains. Le sacrifice est un acte volontaire religieux, c'est intérieur. Et quand il s'agit du Christ, c'est un sacrifice, c'est le sacrifice du Fils bien-aimé, et c'est le sacrifice de son sacerdoce de Fils bien-aimé, c'est donc un sacerdoce, c'est donc un sacrifice intérieur d'amour qui dépasse la vertu de religion, et qui est premièrement un acte d'amour, mais qui implique la vertu de religion, puisque ça implique l'Holocauste. Tout est assumé. Et voyez, ce qui est éternel, hein, la valeur éternelle et intérieure, est premièrement l'intention profonde du Fils bien-aimé qui accomplit la volonté du Père, et en accomplissant la volonté du Père, s'offre, offre sa vie par amour. C'est donc vraiment un acte tout intérieur, réalisé dans la contemplation, qui s'achève dans un acte religieux et qui assume tout l'aspect violent. Tout le sang du Christ est offert. Ce sang qui est versé par violence, il est offert. Et donc il est inséparablement uni au sacrifice intérieur. Parce que la charité peut assumer, informer l'exercice de la vertu de religion. Et l'exercice de la vertu de religion dans ce qu'il a de plus fort, l'Holocauste et le sacrifice. Ce sacrifice est agréé par le Père et il est unique. Mais ce sacrifice va impliquer de fait tout le mystère de la compassion. Et je crois que nous devons le regarder, si nous voulons vraiment regarder concrètement pour mieux saisir le mystère de l'Eucharistie, puisqu'il prend toute sa signification là. Ce sacrifice va de fait avoir une complémentarité, un achèvement dans le cœur de Marie, dans le mystère de la compassion. Et on peut préciser là, si on va jusqu'au bout de la théologie de ce sacrifice, comprendre que la complémentarité de Marie dans le point de vue de la compassion va impliquer complémentarité du côté de l'agneau, c'est-à-dire du côté de la victime, et du côté du sacerdoce. Autrement dit, la complémentarité de Marie par rapport au mystère du sacrifice du Christ est une complémentarité que nous exprimons, nous, d'une double manière. Et nous ne pouvons pas faire autrement. Parce que Marie aurait pu être complémentaire du sacrifice du Christ uniquement du côté victimal. Mais elle peut l'être aussi du côté sacerdotal. Et c'est important de voir la double complémentarité au point de vue théologique. Ce qui n'a pas beaucoup été étudié, ça. Et c'est peut-être notre devoir de l'étudier. Parce que là, nous touchons quelque chose qui est très, très propre à l'évangile de Jean. Tout le mystère de la compassion. Et tout le mystère de la compassion implique bien cette double complémentarité. Marie est celle qui achève le sacrifice du Christ. Elle l'achève comme épouse. C'est parce que l'alliance nouvelle est une alliance d'époux et d'épouse. Et c'est pour ça que, dans la sagesse, Dieu a voulu que Marie achève le sacrifice du Christ comme une épouse. C'est le propre de l'épouse d'achever ce que fait l'époux. La femme complémentaire dans l'ordre divin, complémentaire de ce que Jésus réalise comme grand prêtre, puisque le sacrifice de la croix, c'est vraiment le sacrifice du grand prêtre. Marie achève. Et ce sacrifice va avoir son ultime effet dans la résurrection, dans la glorification. C'est l'effet direct. Et saint Thomas souligne, et là nous pouvons le dire, c'est du reste directement dans l'Écriture, quand Jésus parle aux disciples d'Emmaüs, il fait comprendre le lien qui existe entre la croix le sacrifice et la résurrection. Il était nécessaire, c'est un lien de nécessité. Tandis que quand il s'agit du mystère de la croix et des modalités dont la croix s'est réalisée, on ne peut pas dire que c'est un lien de nécessité. C'est toujours un lien de convenance. La croix aurait pu se réaliser autrement. Tandis que du mystère de la croix au mystère de la résurrection, il y a un lien de nécessité, ce qui est très important. On ne peut pas s'arrêter à la croix. C'est ce qui me semble être le mouvement qu'on doit essayer. Je ne peux pas m'arrêter à la scène. Je ne peux pas m'arrêter à la croix. Je dois aller tout de suite au terme qui est la glorification. Alors là, si on saisit ce mouvement, c'est très important. On ne peut s'arrêter qu'à la glorification du Christ. Et à la glorification du Christ, il est bon pour vous que je m'en aille. C'est encore une autre nécessité d'être assis à la droite du Père. Pourquoi ? Pour envoyer l'Esprit Saint. Mais il y a un lien de nécessité. De nécessité dans l'ordre de la sagesse de Dieu. Et je crois qu'on a les étapes successives. Le sacerdoce du Christ est source à travers la croix et à travers le mystère de la gloire du don de l'Esprit. Autrement dit, je ne peux pas séparer ce que Dieu a uni, je ne peux plus séparer le sacerdoce du Christ de la mission de l'Esprit Saint, du paraclet. Le don de l'Esprit Saint se fait à travers le sacerdoce de Jésus, pour nous. Ça rejoint, vous le savez, profondément ce que nous voyons dans l'Apocalypse à propos des sceaux. Mais sept sceaux, c'est l'agneau immolé qui les enlève. Il peut les enlever. Si Jésus, dans son sacerdoce, n'était pas lié à la mission de l'Esprit Saint, l'agneau ne pourrait pas enlever les sceaux. Là, je crois que c'est très important à saisir. Hein, parce que là, il y a une confirmation d'une force extraordinaire dans l'Écriture. Parce que le mystère de la prédestination se réalise par l'envoi de l'Esprit Saint. Il ne peut pas être autrement. Et donc, si l'agneau est lié au mystère de la prédestination de cette manière, c'est que justement, il est lié à l'envoi de l'Esprit Saint. Voyez, alors nous avons ce grand mouvement de théologie de l'économie. Hein, voyez bien, théologie de l'économie. Je vois où je peux m'arrêter. Et dans l'économie, je n'ai pas le droit de m'arrêter avant. Je dois m'arrêter à la cession du Christ à la droite du Père qui nous envoie l'Esprit Saint. Et à partir de là, tout le mystère de l'Église. Tout le mystère de l'Église qui provient justement, qui est cette Pentecôte d'amour, qui provient du don de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous est donné à travers le mystère de la croix. Il fallait que la croix existe pour que l'Esprit Saint nous soit donné. Il fallait que le Christ soit celui qui est crucifié, glorifié, et qu'il rejoigne le Père pour que l'Esprit Saint nous soit donné. Et tout ça, la scène l'exprime d'une manière symbolique. C'est ça qui est extraordinaire. Le symbolisme de la scène va regarder la croix, et comme la croix implique nécessairement, selon l'ordre de Dieu, selon l'ordre de la sagesse de Dieu, le terme, il faut bien comprendre hein, ce qui est symbolisé premièrement et ce qui est contenu dans la signification de ce symbole. Les théologiens disent la signification propre du signe et puis ex consequenti, n'est-ce pas ? Le ex consequenti, c'est-à-dire tout ce qui est impliqué dedans. Je crois que c'est cela que nous devons comprendre. Selon l'Écriture, nous voyons bien qu'il y a des liens, mais il n'est pas précisé la nature exacte de ce lien. Selon l'Écriture, c'est là où, de fait, la tradition apporte un complément. Parce que si je regarde uniquement l'Écriture, je vois la succession. La succession m'est donnée. Il y a un ordre, ce qui est très important. C'est très important de comprendre cet ordre, de comprendre ce que Jésus fait à la scène où il devance le mystère de la croix, mais de cette manière symbolique. Dans un repas et à travers un repas. Et comment le mystère de la croix est lié jusque-là. Alors voyez ce qui va nous, ce que nous allons, ça c'était le rappel. que c'est très important de revenir à l'écriture et de comprendre cela, comprendre l'importance de ce geste du Christ. Si je comprends ce geste de Jésus, l'institution de l'Eucharistie, tout ça est impliqué. Nous allons maintenant, pas maintenant mais la fois prochaine, nous allons, puisqu'on est dans le temps, nous allons maintenant voir comment l'Église, progressivement, alors on ne va pas faire l'étude progressive du point de vue historique, ce n'est pas le but, mais comment l'Église, dans le Concile de Trente, a saisi la signification de ce geste du Christ à travers le sacrement de l'Eucharistie tel que l'Église vit. Et alors, je vous montrerai le lien avec le geste et la précision que l'Église donne. C'est le sacrement du Christ et le sacrement de l'Église. Et alors c'est normal que l'Église ait eu le souci de garder ça. C'est la perle, c'est la chose la plus précieuse que l'Église garde. C'est le testament du Christ. Et donc, à la fois de respecter la limpidité de ce testament, mais en voir en même temps toute la richesse, toute la plénitude. Ça, c'est le souci de l'Église. L'Esprit Saint nous est donné pour nous conduire à la vérité tout entière. Et l'Esprit Saint nous conduit à la vérité tout entière par rapport au sacrement de l'Eucharistie, par rapport au sacrement de Marie, par rapport au don de Marie et par rapport à Pierre. C'est les trois points où l'Esprit Saint nous conduit pour la vérité tout entière. Parce que c'est les trois sources qui nous sont données, les trois moments où il y a quelque chose de nouveau.